Technologie, science, algorithme,
simulation,
information, recherche,
géométrie,
modélisation, mathématiques,
réseau,
informatique. Technologie.
Pour ce troisième podcast, nous recevons Agnès Sulem, directrice de recherche à l'INRIA au concours, responsable scientifique de l'équipe projet MATFI, qui travaille donc sur les mathématiques financières, notre sujet du jour. Agnès Sulem, bonjour.
Bonjour.
Alors, vos recherches sont axées sur la modélisation des actifs financiers. Avec vos moyens, vous développez donc des recherches sur une problématique très actuelle. Et aujourd'hui, vous allez nous expliquer en quelques mots ce que sont les mathématiques financières.
Donc les mathématiques financières, c'est une branche des mathématiques appliquées, basée en particulier sur l'analyse et sur la théorie des probabilités, et qui s'intéresse aux phénomènes qui régissent les marchés financiers. Finalement, ça a connu une explosion dans les publications et dans l'intérêt que ça a suscité ces dernières années, mais il faut savoir que, en fait, ça existe depuis longtemps, puisqu'il y a eu les premiers travaux de Louis Bachelier. Il avait écrit une thèse en 1900 qui s'appelait « Théorie de la spéculation », et dans lequel il proposait des modèles pour l'évaluation des cours boursiers, et il proposait aussi des modèles pour ce qu'on appelle les produits optionnels, les options sur actions. Et ça a été un des premiers, justement, à proposer le concept de mouvement brownien, qui avait été évidemment proposé par le biologiste Brown au début du 19e siècle, mais qui a vraiment été formalisé par Bachelier, puis qui a été repris après par Einstein, etc.
Et le mouvement brownien, pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, donc c'est un processus stochastique qui a la propriété d'avoir des trajectoires continues, mais d'être très irrégulier dans le sens où on n'a pas de dérivée. Alors c'est quelque chose de très agité. Donc les options, ce sont des produits dérivés, si vous voulez, et ça a eu un énorme essor à partir du moment où ça a été coté de façon systématique à la bourse de Chicago dans les années 70. Donc ce volume de transactions a énormément augmenté et il y a eu beaucoup de travaux. Et il y a eu donc des prix Nobel d'économie qui ont été primés pour leurs travaux justement sur les calculs des options. Donc je pense à Merton, à Scholes et puis Black, tous ces gens qui ont vraiment contribué beaucoup à la modélisation mathématique.
Comme vous employez le terme de modélisation, justement, comment les mathématiques interagissent avec la finance ?
Il y a énormément de problèmes qui sous-tendent ces questions. La finance est par nature aléatoire. Enfin, les processus sont par nature aléatoires. Donc, il y a la question de comment modéliser ces processus, comment trouver... Donc, évidemment, il y a un aspect statistique, mais pas seulement. Et puis, il y a toutes les questions numériques, puisqu'on va avoir à calculer des problèmes de couverture, c'est-à-dire comment, finalement, faire face au risque, comment quantifier ce risque, comment le maîtriser au mieux, et puis aussi comment donner le juste prix à des produits qui sont proposés. Donc c'est très important de proposer une évaluation de ces produits. Et aussi une problématique, c'est la problématique de l'arbitrage. C'est-à-dire qu'il y a un principe en finance qui dit que c'est pas possible d'être sûr, à coup nul, de pouvoir avoir une stratégie qui, sans investissement initial, si vous voulez, conduit à coup sûr à un gain. Cette problématique, ça s'appelle l'absence d'opportunité d'arbitrage. Et d'ailleurs, il y a des agents sur le marché qui sont chargés de veiller qu'il n'y ait pas de ces niches, en fait, qui permettraient de gagner à coup sûr. Il y a aussi une problématique qui est de dénicher les tricheurs, en quelque sorte. On pourrait dire qu'on peut voir un peu de morale aussi là-dedans. Par exemple, tout ce qui est les problèmes d'initiés. Vous savez, ce sont des gens qui ont des informations que d'autres n'ont pas. Oui. Et qui pourraient, justement, par le fait d'avoir toutes ces informations, en profiter pour agir sur les marchés. Donc, il y a aussi des techniques de probabilité assez sophistiquées, qui s'appellent les techniques de grossissement, de filtration, qui permettent, justement, éventuellement de dénicher des stratégies qui proviendraient d'acteurs qui auraient plus d'informations. Il y a d'autres problématiques qui émergent. Donc j'ai parlé des produits des options. Donc ça a commencé avec les options sur actions. Et puis ça s'est étendu aux options sur taux d'intérêt. Et puis sur les dérivés de crédit, on en a entendu beaucoup parler ces derniers temps, les problèmes de crédit, c'est-à-dire des produits qui sont adossés à des contrats liés au crédit et liés à des problèmes de défaut sur les crédits. C'est-à-dire quelqu'un qui prend un crédit et puis qui n'honore pas son crédit. On en a entendu parler avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc il y a pas mal d'activités sur les produits de crédit. Et puis également sur les options qui sont non pas sur des actifs financiers, mais sur ce qu'on appelle en anglais les commodities. Par exemple l'électricité, les dérivés énergétiques, les dérivés climatiques, qui sont adossés donc à des choses qui dépendent d'autres choses que des marchés financiers, mais qui peuvent dépendre du climat, de l'environnement.
Dès qu'il y a un problème au niveau des marchés financiers, ça a des répercussions énormes sur toute l'économie, le fonctionnement même de la société. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment est-il possible de faire des prévisions, des calculs sur quelque chose qui est par nature instable, imprévisible.
C'est-à-dire que bon, il y a peut-être les prévisions, mais il y a aussi le fait qu'il y a des notions de transfert de risque. Ce qui se passe beaucoup dans les marchés financiers, c'est on vend du risque ou on transfère du risque de quelqu'un dont la vocation n'est pas forcément de le gérer à quelqu'un dont c'est le métier et qui en a le contrôle. Et puis, il y a les notions également de prévision éventuellement qu'on peut avoir si on étudie avec des objets statistiques. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la calibration de modèle, c'est-à-dire qu'à partir des objets qui sont cotés, à partir des produits qui sont cotés, on peut en déduire par une espèce de travail inverse, de problème inverse, comme on dit, les modèles. On peut appliquer après ces modèles pour évaluer des produits plus complexes. Je voulais citer la phrase de Merton, donc Merton qui est un de ceux qui a obtenu le prix Nobel d'économie, donc qui a eu des travaux très importants dans les années 70, et qui disait « Reality will eventually imitate theory ». La réalité, éventuellement, pourra copier le modèle. Et alors, par exemple, on pense typiquement à ce célébrissime modèle de Black-Scholes. Alors, évidemment, c'est un modèle imparfait qui a été beaucoup retravaillé, mais c'est quelque chose qui a été quand même, qui est passé dans les mœurs des traders et qui permet d'illustrer un petit peu cette formule.
Pour les non-économistes, qu'est-ce que c'est le modèle Black-Scholes ?
Le modèle de Black-Scholes, c'est un modèle de type diffusion. Ça permet de modéliser les processus par une diffusion. C'est un processus stochastique et qui a une certaine distribution log normale. Et c'est un modèle qui permet d'avoir des calculs assez agréables à manipuler. Parce qu'il faut savoir que quand même derrière, il y a tout la machinerie du calcul stochastique, le calcul du tout.
Et donc l'informatique dans tout ça ?
L'informatique, je dirais plutôt la programmation des méthodes numériques. C'est important parce qu'il y a énormément de calculs, que ce soit par des méthodes probabilistes, pour faire des calculs d'espérance conditionnelle, pour faire des calculs de risque. Mais aussi des méthodes de type équation dérivée partielle, c'est-à-dire pour eux, ces couvertures, ces stratégies optimales, elles sont données parfois par des solutions d'équations dérivées partielles que l'on ne peut pas résoudre explicitement. Et donc il faut faire appel à des calculs, et souvent ce sont des gros calculs, ce sont des problèmes de grande dimension, et donc évidemment on a besoin d'implémentation numérique. Et c'est là où intervient justement le logiciel Premia que nous développons, c'est que c'est une plateforme de calcul d'options financières, donc dans laquelle sont décrits et sont implémentés un certain nombre de routines qui sont dédiées justement à ces calculs d'options, à la fois sur actions, sur taux d'intérêt, sur crédit, sur dérivés énergétiques.
Donc pratiquement, comment les industries, c'est des industries ?
Alors, ça s'est développé dans un cadre qui est un cadre de consortium, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'établissements financiers, donc des grandes banques comme la Société Générale, Calion, etc. Puis maintenant, il y a une ouverture à l'international avec des banques japonaises et puis d'autres, qui participent, donc elles participent au financement, mais aussi, encore plus important peut-être, ça nous permet de poser la question de la pertinence de ce qu'on fait et de nous confronter à la réalité des salles de marché.
Cet échange entre informaticiens, mathématiciens et financiers, entre guillemets, c'est assez récent finalement.
Il y a peut-être 30 ans, le langage commun n'était peut-être pas facile. Il faut dire que toutes ces dernières années, je dirais même depuis 20 ans, les équipes de recherche et développement des grandes banques ont énormément embauché de mathématiciens. Et donc, ce sont nos interlocuteurs privilégiés. Donc, ils connaissent à la fois le monde de la finance et les méthodes mathématiques. Donc, il n'y a pas de barrière de la langue, je dirais. On peut parler un langage commun, se comprendre. Donc maintenant, dans beaucoup de conférences sur le sujet, il y a à la fois des mathématiciens et des praticiens qui se retrouvent.
Bien, merci Agnès Sulem.
Merci.
Ce podcast sur les mathématiques financières touche à sa fin. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas l'informatique à portée de clic sur Interstice.